Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
En 1963, au cours d'une interview à la télévision belge, Jacques Brel, qui était questionné sur son succès, assurait avec autorité « Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. » Pour le chanteur, le talent ne serait donc pas un don miraculeux, mais le fruit d'une volonté obstinée. Qu'en pense le sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques ? Spécialiste du travail créateur, il a analysé l'évolution de cette notion de talent, qui est devenue omniprésente depuis maintenant 3 décennies. Bonjour Pierre-Michel Menger.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors, on va tenter d'éclaircir les dessous de cette notion à succès, qui n'est pas si facile à définir. Mais d'abord, je voulais commencer par un petit détour historique de l'origine de ce mot, parce que l'origine peut étonner, en tout cas je l'ai été quand j'ai regardé l'étymologie. Sous l'Antiquité, le talent, c'était une unité de mesure et de poids. Alors quel est le point commun entre cette unité et puis la définition qu'on s'en fait aujourd'hui ?
Le mot talent vient effectivement du grec « talenton », qui était une unité de poids, comme vous l'avez dit, qui mesurait notamment des poids d'argent ou d'or. Et il y a une célèbre parabole dans l'Évangile selon Matthieu, ou Saint Matthieu, qui dit la chose suivante. Un maître est parti et a confié à ses serviteurs respectivement 5 talents à l'un, 3 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Et a dit, je pars 6 mois et quand je reviendrai, voilà, on verra comment vous êtes comportés. Et il part et à charge pour les serviteurs, on dirait les employés aujourd'hui, si on était dans un univers de management, à charge pour eux d'en faire quelque chose. Le premier serviteur, au retour du maître, explique que maître, j'ai utilisé cet argent que vous m'avez confié et je l'ai doublé. Le maître est formidablement heureux, dit « Bravo, vous avez fait quelque chose, vous avez agi », comme dirait Jacques Brel. Le deuxième serviteur dit « Maître, avec les 2 talents que vous m'avez confiés, j'en ai 4. Donc j'ai doublé aussi ce que vous m'aviez confié. Bravo, formidable, vous pouvez entrer dans la maison du maître, autrement dit dans le royaume de Dieu. » Et le dernier, c'est la catastrophe. « Maître, je n'ai rien fait de ce talent, je l'ai enfoui dans le sol. J'avais peur de vous et je ne savais pas quoi en faire. » Et le maître entre dans une rage folle en disant « Mais tu n'as rien fait, tu n'as pas osé faire quelque chose de ce que je t'avais confié, tu es chassé du royaume de Dieu. » Évidemment, la morale de cette fable est terrible, ou la leçon qu'on en tire dans l'Évangile, c'est « À ceux qui ont déjà beaucoup, on leur donnera encore plus, et à ceux qui ont peu, on donnera encore moins. » Alors comment faire rentrer ça dans la religion catholique ? Vous vous rendez compte du pied de nez à tout ce qui est le fondement d'une religion et d'une éthique, de la justice et de la lutte contre la pauvreté. Et j'ai interrogé un théologien catalan, l'argument est « Il faut savoir prendre un risque. Si on ne prend pas de risque, pour faire quelque chose, pour agir, eh bien, on ne mérite pas d'être reconnu et d'avoir le bénéfice d'une situation de richesse. » Et de fait, celui qui a enfoui le talent n'a rien fait, il n'a pas pris de risque. Les 2 autres, on ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris, mais ils en ont fait quelque chose. Alors, ça a été un sujet d'exégèse considérable de la part des pères de l'Église sur des siècles et des siècles pour résoudre ce paradoxe qui est « Mais comment peut-on célébrer l'enrichissement dans le royaume de Dieu ou dans l'univers de la religion chrétienne ?» Et en fait, la notion de talent est réapparue à la fin du XVIIe siècle dans l'Europe des Lumières pour qualifier les fondements d'une réussite extraordinaire qui permettait aux individus de ne pas être prisonniers de leur destin d'origine, notamment dans une société comme la société d'Ancien Régime, où on était prisonnier de ses origines, de sa naissance. Autrement dit, et c'est pour ça que cette notion a été incorporée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, article 6, les carrières sont ouvertes à tous les talents, et pas simplement aux privilèges de naissance.
Voilà, là, on va parler d'inégalités qui sont justes.
Voilà, c'était une valeur émancipatrice qui célébrait d'une certaine manière cette valeur qu'a citée Jacques Brel, qui est « il faut agir ». Et d'ailleurs, Jacques Brel n'a peut-être pas lu, ou je ne sais pas, Marx, mais Marx disait « si on n'agit pas sur le monde, on ne sait même pas de quoi on est capable ». Et donc, il faut vaincre des difficultés pour s'accomplir. Donc, que ce soit un don inné ou un don acquis ou une capacité acquise, etc., Ces disputes-là sont incessantes, on y reviendra peut-être, mais c'est toujours par l'action qu'on peut savoir exactement jusqu'où on peut aller, comment on peut surmonter des difficultés, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses risques. Le risque, c'est aussi l'inconfort, c'est le bénéfice de l'aventure, mais c'est aussi l'inconfort s'il y a échec et s'il faut pouvoir et savoir surmonter l'échec.
Vous venez de parler de ce débat autour de l'inné et de l'acquis. Je suis allée regarder sur le site du dictionnaire de l'Académie française. Le site du dictionnaire dispose d'un formidable outil qui permet de voir l'évolution des mots selon les éditions. Donc, première édition du dictionnaire de l'Académie française, donc on est en 1694. Le talent est défini comme un don de la nature, une disposition, une aptitude naturelle pour certaines choses. Donc, première édition, 1694. Je suis allée regarder la dernière édition, celle qui est sortie en 2024, la 9e édition. Et bien là, devant la définition talent, on parle plutôt d'aptitude naturelle ou acquise. En fait, au fil des siècles, on observe qu'il y a eu un glissement qui s'est opéré autour de cette notion. Donc d'abord, première édition de l'Académie, on le perçoit comme un don de la nature. Et puis, au fil des siècles, en fait, le talent peut être acquis au cours d'une vie. Comment il se constitue, ce talent? Quelle est votre vision?
Au XVIIIe siècle, vient ce motif qui est « le talent seul ne suffit pas ». Quelle que soit sa définition, il faut aussi l'effort pour le mettre en route et de bonnes conditions pour qu'il soit reconnu et valorisé. Et cette affaire-là se déclenche au long du XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières pour, en quelque sorte, détacher l'individu de son assignation sociale, qui était celle des inégalités radicales de transmission des privilèges de naissance. Et donc, on célèbre l'ambition des individus d'aller au-delà de ce qu'est leur naissance pour réaliser tout leur potentiel, en quelque sorte. Au milieu du XIXe siècle, surgit avec les travaux de Francis Galton la question de « mais d'où vient l'intelligence qui est le facteur clé qui s'applique, en quelque sorte, à toute réussite ?» Est-ce que c'est une propriété innée ou une propriété acquise? Galton voulait mesurer l'intelligence et avait l'idée d'une hérédité de l'intelligence. Et là se déclenche une formidable controverse scientifique qui ne se résoudra que lorsque on admettra tranquillement, mais sans résoudre le problème complètement, qu'il y a en fait une interaction entre des facteurs biologiques, tout individu est doté d'une identité biologique, et des facteurs environnementaux qui permettent ou non de déclencher quelque chose et qui ont des propriétés, évidemment, de révélation de ce qu'on peut appeler le potentiel. Voilà, le fondateur de la sociologie en France, Émile Durkheim, voulait lutter contre une vision unilatérale de Francis Galton et a très bien dit que c'était un mélange de facteurs et que cette interaction des facteurs, c'est très difficile de quantifier qu'est-ce qui est quoi. C'est un sujet de recherche interminable. À Londres, en 2012, ou avant 2012, quand Londres a accueilli les Jeux Olympiques, ils ont réuni, 2 ou 3 ans avant, tout un aréopage de scientifiques pour trouver les moyens d'obtenir des médailles d'or. Autrement dit, pour savoir qu'est-ce que c'était que le talent qui permet d'être médaillé d'or aux Jeux Olympiques.
La recette du
succès. Et voilà, la conclusion a été, on avance, mais on ne pourra jamais déterminer exactement quelle est la part de tel ou tel facteur, parce qu'ils sont tout simplement en interaction dynamique.
Vous parlez de l'énigme de son indéfinissabilité. C'est un dosage mystérieux. En fait,
voilà, c'est heureusement, si j'avais exactement le bon dosage des qualités en question, j'aurais un instrument pur et parfait pour détecter chez chacun des individus, à une période donnée de sa maturation, ce qu'il peut devenir, et j'aurais une sorte d'équation déterministe. Autrement dit, je serais le dieu de la chasse aux talents dans les sports, les arts, les sciences, etc. Et je ferai un tri invraisemblable en disant, vous serez du bon côté et vous serez pas du bon côté. Ça ne marche pas comme ça, heureusement. Et donc, heureusement qu'il y a une énigme et qu'il y a une indéfinissabilité essentielle, non pas accidentelle, mais essentielle, parce que les propriétés nécessaires pour réussir dans différents domaines sont une composition de facteurs. Il vous faut, par exemple, de l'imagination si vous êtes artiste, il vous faut un caractère pour surmonter des difficultés, il vous faut peut-être du charisme, il vous faut une indépendance d'esprit, il vous faut de la résilience en cas d'échec, il vous faut des nerfs d'acier si vous êtes un pianiste, que vous avez des doigts d'acier mais que vous êtes saisi par le trac, eh bien votre carrière ne fonctionnera jamais vraiment très bien, sauf si vous avez à dominer ce trac. Autrement dit, cette composition des facteurs, et il ne suffit pas de dire je veux que chaque facteur soit en son index maximum. Personne n'est au maximum de toutes ces capacités-là, c'est impossible. Et donc, on peut compenser l'une par l'autre, et voilà, c'est notre pauvre humanité, mais notre humanité glorieuse en même temps, parce qu'elle doit affronter une situation d'incertitude, d'abord de savoir de quoi exactement je suis porteur, et une fois que je décide d'aller dans un domaine, je ne suis pas certain de réussir, mais je vais m'y engager et peut-être que j'apprendrai sur le tas, dans l'exercice même de l'activité, toutes sortes de choses qui me serviront à comprendre de quoi exactement je suis capable et d'évoluer dans ce sens-là.
Et autre preuve de sa malléabilité, la notion de talent a été invoquée par différents bords politiques au cours de l'histoire. Vous avez parlé tout à l'heure du libéralisme politique, mais le marxisme aussi a invoqué cette notion de talent.
Oui, l'histoire de la politisation de la notion, elle est longue aussi. Je vous ai dit que cette valeur du talent pouvait être une valeur émancipatrice à la fin du XVIIIe siècle, quand on a voulu délivrer les individus d'une assignation sociale dans une société à ordre. Et donc, on a célébré cette capacité individuelle. C'est l'histoire d'une forme d'individualisation des capacités, d'une capacité individuelle de réussir, en quelque sorte. Mais ensuite vient la question de jusqu'où peut-on justifier des écarts de réussite. Si on invoque le talent, on peut risquer d'oublier les facteurs sociaux. On peut oublier que si chaque individu qui réussit simplement énonce qu'il réussit parce qu'il a des qualités qui lui sont acquises d'emblée et qui ne veut pas reconnaître du tout les facteurs environnementaux, l'origine familiale, etc., etc. Autrement dit, il veut être le fils de ses œuvres. Les artistes sont volontiers enclins à se déclarer fils de leurs œuvres et pas simplement fils de leur famille. Mais ça serait injuste, évidemment. Et donc, on dit... Si vous mettez trop l'accent sur des facteurs innés, vous oubliez tous les déterminismes sociaux qui existent aussi. Autrement dit, vous oubliez une partie des facteurs en interaction. Et ensuite, dans l'univers des usages sociaux de cette notion-là, comme dans le monde de l'entreprise, la question est de savoir, premièrement, comment définir, deuxièmement, comment soit identifié, quoi, ou développé. Si vous dites « je suis capable d'identifier a priori ceux qui vont avoir, que je considère comme des talents », ça voudrait dire que vous avez une équation et qu'une épreuve de recrutement vous permet d'avoir une vision complète de l'individu que vous voulez embaucher. Ça niera et ça empêchera de réaliser à quel point une carrière peut être évolutive, une situation de recrutement en entreprise peut modifier l'individu, modifier aussi le rapport entre l'individu et ses employeurs, ses supérieurs ou ses collègues, et comment l'individu peut révéler des qualités qui n'étaient peut-être pas présentes a priori. On le voit très bien dans le sport d'une manière encore plus frappante, parce que la tentation est grande de dire dans le sport, on voudrait identifier les jeunes talents à l'âge de 5 ou 10 ans, mais en faisant ça, on ne sait pas quelle sera la maturation psychologique, physiologique des jeunes, et donc il faut laisser agir l'équation, disons, d'interaction des facteurs, tout simplement, qui va permettre de raisonner en termes de développement. Autrement dit, de dire les individus sont plus grands que les capacités initiales qu'on a identifiées chez eux. Ils peuvent se modifier, ils peuvent se développer et ils peuvent réagir à l'environnement pour déclencher quelque chose.
Vous avez parlé du monde de l'entreprise, on va en reparler tout à l'heure, du monde sportif aussi. Vous, personnellement, vous avez beaucoup travaillé sur les industries créatives. Qu'est-ce qui est ressorti de ce terrain-là ?
Le monde des arts est un monde qui est à la fois extraordinairement attirant parce qu'on vous demande d'être original dans une création, L'originalité, c'est ce que j'appelle la différenciation horizontale. Personne ne veut faire la même chose que son voisin. Et c'est même une des conditions de la propriété littéraire et artistique. Et c'est au fond un champ gigantesque de libération du potentiel de talent dont vous êtes, vous pensez, porteur. Vous dites, j'ai quelque chose à exprimer. C'est la définition expressiviste du travail créateur. Je veux exprimer quelque chose et je le fais d'une manière que personne d'autre ne peut réaliser de la même manière que moi. Si j'imite quelqu'un d'autre, je suis accusé de plagiat. Et donc, mauvaise nouvelle et mauvaise pratique. Mais à un moment ou un autre, tous ceux qui sont engagés dans cette façon d'exploiter leur potentiel ou de mettre en avant un talent dont ils se pensent porteurs et une volonté d'expression dont ils sont porteurs, doivent se confronter à autrui. Et il faut attirer l'attention d'un public ou d'un marché ou des institutions, tout ce que
les
vous
intermédiaires,
voulez.
Ouais.
Et celles qui vont faire passer tout ça à travers le goulot d'étranglement de la compétition. Et dans ce cas-là, la différenciation horizontale pivote et elle devient une différenciation verticale. Un tel sera jugé plus talentueux, comme on dit, qu'un autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? C'est là que les choses deviennent subtiles. D'abord, c'est un mécanisme, ce pivotement crée des inégalités qui sont très bien documentées. 20% des artistes raflent plus de 80% des revenus dans n'importe quel art constitué. Sauf peut-être dans la poésie, où il y a tellement peu de revenus que, voilà, ou de visibilité, si on peut aussi parler en termes symboliques. Donc, le problème, c'est est-ce que je vais m'engager dans cette activité sachant que j'ai des chances assez faibles de réussir ? C'est un premier point. Le deuxième point, c'est celui qui a réussi, de combien est-il meilleur que celui qui est un peu moins intéressant ou qui a attiré moins l'attention sur lui ou qui n'a pas obtenu le prix Goncourt, etc.
Pas forcément de beaucoup.
Mais oui, de pas beaucoup peut-être. Il suffit qu'il y ait un petit peu quelque chose et on pourrait jouer avec cette qualification-là. C'est pour ça que j'appelle aussi le talent un différentiel. C'est ce qui fait la différence, mais de combien, on ne sait pas. Il y a une émission célèbre à la radio française qui s'appelle La Tribune des critiques de disques, que j'écoute d'ailleurs depuis très longtemps, qui compare des interprétations de musique classique. Et alors, ça y va dans la comparaison. Et ah oui, un tel est formidable et un tel non. Pour un non-spécialiste, tout ça lui passe par-dessus la tête intégralement. De combien Taylor Swift est-elle meilleure que sa rivale l'année dernière, alors que Taylor Swift a gagné des milliards et a été l'origine, paraît-il, d'un petit boom économique à elle toute seule ? On ne peut pas le dire, mais Taylor Swift engrangera des milliards et une rivale ou une compétitrice ou une collègue, pour parler plus gentiment, peut-être n'aura pas grand-chose. Or, elle sera peut-être aussi...
Oui, un petit écart peut créer
un
fait,
petit écart, et surtout énormes. Dans des univers où la réputation peut être exploitée au niveau planétaire. Et évidemment, les industries culturelles adorent ces situations parce que dans cette affaire, il y a toujours deux phases. Il y a explorer pour trouver des gens sur qui il faut miser. Et après, exploiter. C'est une vieille distinction des spécialistes du management comme Jim March. Et exploration, exploitation. Donc, on explore, on teste. Il y a toutes sortes de talent shows où on met les gens en compétition, incroyable talent, etc. Ouvrez votre poste de télévision, j'en ai plus de télévision. Mais enfin, bon, je sais que ça existe. Et voilà, les talent shows, ils sont proliférants. Cuisine, chant, vent, piano, musique classique, enfin, tout y va. Le prodige, enfin, on y va gaiement. Et... l'industrie met en compétition pour identifier et après, quand on a identifié, on va exploiter évidemment. Et donc, on va placer un levier sous la réussite de certains pour valoriser au niveau planétaire cette réussite-là, ou au plus large niveau possible, alors que leur réussite n'était pas considérable. Le champion olympique du 100 mètres, de combien il a battu le deuxième, peut-être de quelques centièmes de seconde. Qui connaît le nom du second après, quelques temps après, c'est fini. Voilà, et c'est l'injustice terrible de cette situation. Ça crée une indétermination suffisante pour que suffisamment de monde se sente appelé et qu'on accepte de jouer ce jeu-là, pourvu qu'on ait aussi le sentiment qu'à travers l'exercice de ces métiers-là, on puisse exprimer quelque chose qui est plaisant, qui n'est pas routinier, etc., qui n'est pas du travail au sens classique du terme. La dernière observation que je peux faire, c'est qu'il y a des domaines où, même avec un talent gigantesque, vous n'en ferez pas grand-chose parce que ça n'a pas de valeur économique. Par exemple, je dis toujours, le meilleur cueilleur de champignons du monde, ou de France, ou de Lorraine, ou de tout ce que vous voulez, bon, qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer de ce talent-là, qui est peut-être extraordinaire. Il a un nez fantastique, etc. Il a un génie propre. Bon, on peut jouer avec toutes sortes d'exemples possibles, mais le domaine ne permet pas d'exploiter ça. Il faut réunir toutes ces conditions-là pour comprendre ce qu'est ce jeu du talent. Il y a des mondes où ça n'importe pas beaucoup et d'autres où ça a une valeur stratosphérique.
Ouais. Dans le monde artistique, c'est un risque à prendre. On en revient à la parabole.
C'est toujours comme ça. Voilà. Il faut agir et il faut supporter l'incertitude de la réussite. Dans les sciences, c'est pareil. Dans les sciences, un cinquième des scientifiques publie 4/5 des papiers et obtiennent 90% des citations. Vous vous rendez compte du jeu que ça représente. Vous ne savez pas, quand vous entrez dans ce jeu-là, de quel côté vous allez tomber. Et alors, chaque métier ou chaque domaine a ses manières de gérer cette incertitude sur la réussite possible. Dans les sciences, c'est une des raisons pour lesquelles on a couplé des activités de recherche qui sont extrêmement risquées. On n'est pas sûr de réussir, de trouver. On n'est pas sûr de trouver le premier. Il y a ce qu'on appelle les découvertes simultanées. C'est un mécanisme très, très puissant d'injustice. Et vous êtes battu sur le fil par quelqu'un qui a travaillé sur le même sujet, mais qui publie un jour avant vous, et il y en a des exemples, hein. Merton a beaucoup analysé ça, c'est terrible parce que ça anéantit d'un coup, et j'ai eu des collègues qui m'ont raconté ça aussi, ça anéantit d'un coup tous vos efforts, alors que vous étiez absolument talentueux de la même manière, et puis voilà, la contingence s'en est mêlée, le hasard fait que, etc. etc. Et donc, on couple l'activité de recherche qui est à réussite incertaine et à utilité incertaine, on ne sait pas si ce qu'on va faire, trouver, sera utile ou pas, à une activité d'enseignement qui, elle, est à utilité certaine. Quand on transmet des connaissances à des plus jeunes, il faut espérer que c'est utile. C'est un autre grand sujet. Et où la performance dans l'exercice du métier d'enseignant, elle est assez normale. Tout le monde sait à peu près enseigner quelque chose. Il y a des enseignants épouvantables, ça c'est la catastrophe, mais il n'y en a pas tellement. Et il y a des enseignants extraordinaires, mais il n'y en a pas non plus tellement. Il y a 81 ou 85% des enseignants qui sont au centre de la distribution selon les notes qui sont attribuées par des étudiants aux enseignants. Je n'invente pas des données comme ça. Dans les pays où les étudiants notent leurs enseignants, ça existe aussi en France dans quelques endroits, pas dans beaucoup, mais aux États-Unis, c'est très, très fréquent dans toutes les universités. Eh bien, on voit comment c'est fait. Et donc, coupler les deux, ça veut dire « Ok, prenez des risques dans la recherche, mais si jamais ça ne marche pas, de toute façon, l'enseignement est aussi une garantie que vous aurez une utilité. » Et les différents métiers s'arrangent comme ça, d'une certaine manière. Une carrière peut être très brève dans une activité très risquée comme les sports, et il faut donc mettre en route assez tôt une reconversion possible dans des activités moins risquées économiquement, je veux dire.
Un plan B. Quelle différence vous faites entre talent et génie ?
Le talent, c'est de pouvoir se comparer à autrui et d'espérer en avoir aussi, et de prendre un modèle et se dire j'y vais, je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, je suis guidé par des exemples dont je dispose. Le génie, c'est ce qui est presque incomparable. C'est très au-delà. Alors, on pourrait dire que ça n'est que le talent à la puissance 1000. Mais Nietzsche dit quelque chose de très joli. Il dit « Le génie est tellement éloigné qu'il nous interdit d'être envieux. » Et la remarque de Nietzsche dans « Humain trop humain », c'est une guirlande d'aphorismes extraordinaires, ces deux volumes de « Humain trop humain ». Et il y a là-dedans une très, très bonne description psychologique de toutes sortes de mécanismes qui permettent aux individus d'accepter des situations où ils doivent reconnaître et admirer quelque chose qui est trop loin d'eux pour qu'ils éprouvent de l'envie. C'est aussi une remarque que fait le grand philosophe politique John Rawls, qui est de dire « Un monde où on ne peut pas admirer est un monde invivable. » Et ça, c'est une vérité très profonde. Autrement dit, les arts, les sciences, les mondes où il y a des réussites exceptionnelles, il faut qu'il y ait un élément pour se dire peut-être que dans des bonnes conditions ou des conditions extraordinaires, j'aurais peut-être pu aller aussi loin, mais je ne vais pas aussi loin. Et dans ce cas-là, j'admire tout simplement quelque chose que quelqu'un d'autre a fait mieux que moi sans que j'en éprouve un désagrément ou une envie négative, un sentiment négatif.
Alors, on le disait tout à l'heure dans l'introduction, la diffusion du terme a explosé en quelques décennies en France. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, on ne recrute plus des employés, mais des talents. Comment expliquer cette inflation du mot ? Il a été importé par les pays anglo-saxons ?
Le mot a beaucoup grimpé en visibilité à partir de la fin du XXe siècle, à l'occasion de la publication d'un livre qui était d'abord un rapport de la société McKinsey aux États-Unis,
un cabinet de conseil,
The War for Talent, qui tout simplement disait aux entreprises, vos meilleurs éléments sont en train de partir, sont débauchés par vos concurrents, il faut que vous preniez soin de vos meilleurs éléments. Et ils ont utilisé le mot de talent qu'ils ont incorporé, une nouvelle doctrine du management, en quelque sorte. Et c'est de là qu'est parti, certainement, alors il est toujours difficile d'identifier une origine causale pure et parfaite, mais tout de même, ça a joué un rôle, c'était probablement un tournant dans l'évolution du terme dans le monde des entreprises.
On est à peu près dans les années 90.
Fin des années 90. Et on a tout d'un coup vu le mot grimper en visibilité. Si vous faites une recherche sur Google Ngram Viewer, qui exploite l'utilisation des termes dans une masse de sources considérables, vous voyez que tout d'un coup, le terme de talent grimpe
explose
à cette période-là. Et ensuite, il se diffuse. Et après, le problème est de dire, bon, on a le mot, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement ? Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Et de fait, le terme est devenu très populaire au point qu'au lieu de parler de gestion des ressources humaines, qui fait un peu les cinéastes s'en sont beaucoup moqués, un film sur les ressources humaines qui est très critique à l'égard de l'entreprise, décape le mot, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a la gestion des talents. Et donc, on a affaire à un vocabulaire qui est diffusé partout et qui est même sorti du l'univers de l'entreprise. J'ai un jour vu une affiche dans le métro dont j'ai pris la photo qui était « Mon coiffeur a du talent » et en dessous, il y avait l'identité de la plateforme sur laquelle il fallait trouver le coiffeur qui avait le plus de talent dans votre quartier. Et puis, la SNCF embauche des techniciens et dit « Nous embauchons des talents ». Voilà, le terme de talent circule dans tous les sens.
Ce qui peut se comprendre, parce que c'est un terme plus valorisant a priori,
bien
que
sûr.
Les mots, on va dire, plus neutres que collaborateur, qu'employé. Pourtant, vous dites que ce terme-là, talent, il euphémise de nouvelles formes d'inégalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il y a trois manières de concevoir ce vocabulaire. Il y a une manière, disons, super exclusive, qui est de dire « ce qui nous intéresse dans les entreprises, ce sont ceux qui font la différence de manière énorme, des ingénieurs extraordinairement brillants ». Vous le voyez actuellement dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a une compétition absolument acharnée pour attirer les gens qui ont les meilleures idées et qui feront la différence. Et donc, cette conception super exclusive, elle sert à dire si tel ingénieur est meilleur que tel autre qui travaille tout près de lui, eh bien, je vais le rémunérer 100 fois plus. À un moment, le patron des RH, des ressources humaines ou des management des talents de Google a écrit un livre pour expliquer ça très tranquillement. Voilà, si un tel a une productivité ou une inventivité très supérieure, mais objectivable, très supérieure à un autre, eh bien, on va le rémunérer en conséquence. Alors que jusque-là, les salaires étaient contenus dans des écarts qui faisaient que l'entreprise avait un sentiment de synergie. Les individus sont interdépendants. Et donc, s'approprier un salaire 100 fois supérieur à celui de son voisin, c'est de casser la synergie. Ça, c'est la version la plus extrême, en quelque sorte, qui vaut dans certains mondes, et quand il y a notamment une compétition extrêmement acharnée pour attirer. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le trafic des talents dans la Silicon Valley, par exemple. Ceux qui étaient chez Google, qui créent leur start-up et qui attirent à eux des gens qui travaillaient aussi chez Google, etc. Ou bien les entreprises se débauchent leurs meilleurs éléments, etc. On peut le visualiser. Et puis, il y a une version plus exclusive, pas super exclusive, qui dit l'entreprise est composée de trois couches. La couche de ceux qui sont de très bons performeurs, comme on dit, c'est à peu près 15 ou 20% des gens. Il y a une partie du personnel qui fait correctement et normalement son travail, mais qui n'est pas excité au point de se dire
oui,
je vais être.
Il ne fait pas plus que ce qu'on attend.
Voilà. Et puis il y a une partie des gens qui ne sont pas à la hauteur et dans un monde anglo-américain, eh bien, on devrait s'en débarrasser assez vite et parce qu'ils ne sont pas à leur place et que ça ne leur correspond pas, etc. Et donc, le vocabulaire du talent, ici, il désigne 15 à 20% des individus. C'est un modèle à trois couches, en quelque sorte. Et puis, il y a une version inclusive qui est de dire « tout le monde doit pouvoir mériter ce qualificatif à condition que l'entreprise sache, premièrement, valoriser les capacités des individus et les développer ». Et ce qui veut dire, nous n'avons pas besoin simplement de diplômes pour recruter, nous avons besoin d'identifier tout un ensemble de qualités, les fameux hard skills et les soft skills, dont la composition est indéterminée, mais c'est avec ça que ensuite nous allons mettre les individus en situation de travailler pour révéler leurs qualités qui demandent à être mises en valeur.
Donc là, l'entreprise a un rôle à jouer.
L'entreprise joue un rôle considérable. Et les individus eux-mêmes se disent, est-ce que je suis bien dans cette entreprise ou pas ? D'où le développement de tous ces sites et plateformes du type LinkedIn et d'autres. Voilà ce que je sais faire. Si je ne suis pas heureux dans cette entreprise, je suis disponible pour tel ou tel autre emploi. Autrement dit, c'est un jeu où it takes two to tango. L'entreprise doit valoriser sa main-d'œuvre et son personnel. Et le personnel peut se dire, je suis libre de partir si ça ne me convient pas. Ça ne concerne pas tous les emplois, évidemment. Ça concerne surtout les emplois qualifiés, évidemment, où les individus ne sont pas substituables les uns aux autres. Et puis, il y a une version super inclusive. Autrement dit, il y a 4 positions dans cette affaire. Et la version super inclusive, c'est de dire l'entreprise, c'est le mal absolu. Ça ne va pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Les gens sont exploités. Ils ne sont pas heureux. Le travail n'a pas de sens. On n'est pas bien payé, etc., etc. Donc, tout irait mieux s'il n'y avait pas d'entreprise. Et allons-y gaiement. Et donc, ça veut dire tout le monde a un talent équivalent, c'est simplement que le monde est mal fait et que, bon, on peut dire, c'est ce que disait Marx d'une certaine manière. Marx avait écrit que dans un monde idéal, le revenu serait procuré par l'abondance des ressources. Mettons qu'aujourd'hui, ce serait les robots travaillent pour nous. Et donc, les robots créent la richesse et nous pouvons simplement bénéficier. Et dans ce cas-là, tout le monde a un talent équivalent et tout le monde peut tout faire. Il peut être jardinier le matin, cuisinier à midi, poète dans l'après-midi et mathématicien le soir. Et donc, là, c'est une formule radicale. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait la fameuse condition d'abondance de ressources, qui est une condition quasi introuvable. Voilà. Donc, ces 4 positions existent et elles déclinent tout simplement, en quelque sorte, l'arc-en-ciel, si on peut dire, ou la panoplie des positions à l'égard de cette affaire. Est-ce que je cherche l'individu qui fait la différence ou bien est-ce que tout le monde en a, etc.
Vous parliez de LinkedIn il y a quelques minutes. Je suis tombée sur une étude intéressante qui disait que de plus en plus de recruteurs sur LinkedIn se disaient susceptibles de rechercher des candidats pour leurs compétences, pour leurs talents, plutôt que pour leur expérience et leur âge. Donc l'algorithme de LinkedIn vient aussi bouleverser le processus de recrutement.
Oui, encore une fois... Comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne connaît le dosage exact de toutes les qualités nécessaires pour réussir ou accomplir un excellent travail dans de bonnes conditions. Et donc, les plateformes, mais aussi les cabinets de conseil, passent leur temps à modifier le jeu de détection. Et donc, tout ça veut dire aussi que, comme on est dans une société où la scolarisation est devenue massive et que l'enseignement supérieur s'est considérablement développé, qu'il y a donc énormément de diplômés, on ne peut plus simplement se fier au diplôme parce qu'il ne dit pas assez de choses sur ce que font les individus, ce qu'ils sont capables de faire, surtout dans des métiers qui sont soumis à des évolutions technologiques rapides et à une compétition internationale extrêmement puissante. Et donc, le diplôme a en quelque sorte un temps de retard sur l'actualité de plus en plus fiévreuse des qualités à mettre en œuvre dans une activité. Et ça, c'est un défi gigantesque. C'est vrai qu'il y a des périodes où on se dit avoir acquis toutes sortes de connaissances, c'est essentiel pour entrer sur le marché du travail et ensuite accomplir son travail. Mais il y a d'autres périodes qui ont des propriétés extrêmement différentes qui sont j'ai acquis quelque chose, mais je sais que l'essentiel de ce que j'ai acquis, c'est apprendre à apprendre. Ça n'est pas apprendre quelque chose, c'est apprendre à apprendre. Autrement dit, être suffisamment flexible et agile pour pouvoir continuer à apprendre sans arrêt. Une des meilleures définitions possibles du travail intéressant, c'est son contenu formateur. Autrement dit, dans un travail intéressant, j'apprends quelque chose sans arrêt. C'est ce que j'ai tiré de la lecture et de mes échanges avec un célèbre économiste, hélas décédé, Sherwin Rosen, qui était à Chicago, qui est l'auteur d'un fameux article que nos auditeurs devraient lire, Economics of Superstars, et qui est de décrire le learning content of work. Le travail où vous n'apprenez rien est terriblement ennuyeux. Ça fait partie des défis énormes de notre société parce qu'ils sont en plus sous l'emprise de ces évolutions de l'intelligence artificielle qui vont capter une partie essentielle des tâches qui étaient autrefois accomplies de manière normale, tranquille et prévisible par toutes sortes d'individus.
L'IA, c'est un thème qui nourrit votre réflexion ?
Oui, oui, absolument, bien sûr. Mais ça va très vite. Et en même temps, c'est une histoire chaude. Vous savez, être l'analyste d'une histoire chaude, c'est un défi absolument gigantesque parce que chaque jour, vous apprenez quelque chose. Il y a 2 jours, on a appris que les Chinois, avec 20 fois moins de moyens, avaient créé un modèle d'intelligence artificielle qui est quasiment aussi puissant que ChatGPT, qui a mis X années pour le faire, etc. etc. L'écart qu'il y avait autrefois entre l'Occident et le reste, il s'est considérablement réduit et que les Chinois nous montrent aujourd'hui que voilà, ce sont eux les grands rivaux de l'Occident.
Dernière question et je vous libère ensuite. Vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, je le disais tout à l'heure. Deux lieux qui rassemblent des personnalités reconnues et adoubées pour leur travail. Des personnalités talentueuses, on imagine. Est-ce que ce sont deux lieux qui pourraient venir nourrir aussi votre réflexion et votre travail ?
Écoutez, je ne peux pas dire autre chose que répéter « learning content of work » ou « contenu formateur du travail et des interactions ». Ces deux univers dont vous parlez, auxquels j'ai la chance d'appartenir, je bénéficie de la richesse des interactions et je bénéficie du caractère non entièrement prévisible de tout ce que je peux savoir des autres, échanger avec les autres. Et ça, c'est une grande richesse, c'est vrai. Ça vous ouvre l'esprit sans arrêt, ça va vite. C'est très important. Je n'aurais jamais travaillé sur les mathématiques si je n'avais pas eu auprès de moi, parmi mes collègues, des mathématiciens du Collège de France qui sont tous à l'Académie des sciences, etc. J'espère beaucoup travailler avec des collègues de l'Académie des sciences aussi. Voilà. Et ça, c'est inappréciable, mais ça coûte beaucoup, 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 beaucoup de travail et d'efforts pour faire ce genre de métier. Sinon, vous n'êtes pas intéressant ni pour vous-même ni pour les autres.
Merci beaucoup Pierre-Michel Munger. Pour approfondir cette discussion sur le talent, je précise que vous avez dirigé un ouvrage collectif notamment en 2018, Le Talent en débat aux éditions PUF. Tout sera en lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Les podcasts de l'Institut de France.